Je m'appelle Frédéric Lefebvre-Narret, je suis donc le responsable du projet dans l'équipe de Jean Lassalle, candidat à la présidence de la République.
Pour commencer la thématique énergie, quelle est la position de Jean Lassalle concernant le nucléaire et les gaz de schiste ?
Déjà, c'est deux questions en une, elles sont très différentes de nature. Donc Jean Lassalle a soutenu le développement de l'industrie nucléaire quand elle s'est créée, tout en s'inquiétant de l'aspect déchets. Hein. On considère que les solutions de stockage irréversibles, entre guillemets, font porter un risque qui ne peut pas être entièrement connu et maîtrisé, surtout que c'est du très long terme. Donc il défend la lutte de Bure-sur-Meuse, c'est bien Sur-Meuse, je crois, contre, dans une certaine mesure, le projet de CIGEO, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Il s'est déplacé, je crois, sur place. Mais plus important et plus grave, disons bien sûr, les catastrophes de Tchernobyl puis de Fukushima changent complètement la perception qu'on a du risque nucléaire. Je dirais, moi, en tant que mathématicien, disons, je remarque bien que ça veut dire qu'en trois accidents majeurs avec celui de Three Mile Island, rapporté au nombre d'années réacteurs, c'est un taux de risque majeur bien supérieur à ce qui était envisagé lors du développement des filières nucléaires. Donc, le mathématicien, ça doit l'interroger, les spécialistes du risque, les sandinistes, je ne sais plus. Indépendamment du chiffre, Jean Lassalle s'est rendu à plusieurs reprises sur le site de Tchernobyl. Et il dit, moi, ça fait une impression, enfin, une étendue pareille de mort et de dévastation. Ce n'est plus un chiffre, ce n'est plus un mot abstrait. C'est est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut produire? Il ne s'est pas rendu à Fukushima. Mais donc, il pense en tout cas que tout ça nous oblige à remettre en cause... Peut-être non pas les choix qui ont été faits dans les années 70, parce que l'histoire est l'histoire, le parc nucléaire, il est là. Et il y a une excellence industrielle qu'il faut reconnaître, y compris française, par contraste éventuellement avec d'autres pays. Enfin, chacun se trouve très bon, mais le parc français a plutôt des bonnes références comparées aux autres. Il visitait, Jean Lassalle et moi-même d'ailleurs, on visitait hier matin une usine à Reva qui produit les tubes en zirconium qui servent à l'intérieur même des réacteurs nucléaires, donc c'est tout à fait impressionnant comme qualité industrielle, comme organisation, et ça fait partie de l'exportation française, donc on n'est pas... c'est une très belle chose qu'on ait des réussites dans ce domaine industriel. Voilà, maintenant pour l'avenir, le choix de l'EPR se discute lourdement. On était l'un et l'autre dans la même campagne présidentielle en 2007 qui demandait un moratoire sur l'EPR. Je pense que si on l'avait fait à l'époque, on se serait épargné beaucoup de milliards partis. Donc en tout cas, dans l'état actuel des choses, je ne dis pas qu'on a une réponse définitive sur l'EPR, parce que ce qui est fait est fait, hein, mais ça reste une interrogation. Et puis sur le grand carénage, la même interrogation se pose. Hein, est-ce que c'est difficile d'imaginer que EDF puisse financer les deux à la fois. Enfin, en tout cas, c'est ce que le directeur financier d'EDF pensait, donc il doit avoir des raisons de le penser. En tout cas, une chose est sûre, disons, les éléments ont tellement évolué par rapport à il y a 30 ans, 40 ans, que ça mérite de se reposer la question et d'envisager d'autres choix, d'autant que justement les énergies renouvelables ont aujourd'hui un potentiel énorme. On parle de prix pour le vote photovoltaïque qui deviennent inférieurs à celui du nucléaire ou celui de l'éolien. Alors après, chacun a son mode de calcul, mais en tout cas, on est dans le même ordre de grandeur. Le potentiel du solaire, il est immense. Il y a différentes technologies. Jean Lassalle pense particulièrement aux technologies de four, comme celle d'Odeio dans les années 70. Voilà, donc c'est sûrement pas de son point de vue une réflexion fermée. Et puis les différents experts qu'on consulte nous donnent chacun leur mix, qui est différent de celui du voisin. C'est pas grave, c'est pas un candidat à la présidentielle tout seul qui va décider quel est le pourcentage année par année des différentes énergies. Ce qui est sûr, c'est que la direction, c'est celle des énergies renouvelables, c'est celle du solaire pour la production d'énergie, en France et dans l'Hexagone, dans les Outre-mer, également, pourquoi pas, c'est une filière qui se développe en Afrique, etc., pour autant que nos industries puissent être concernées. C'est des notamment les énergies marines. On dit souvent que l'énergie houle motrice représente 5 fois le total de l'énergie produite aujourd'hui dans le monde. Donc c'est un potentiel absolument gigantesque. Bien sûr, ça demande des investissements physiques. Donc aujourd'hui, on n'est pas au stade de pouvoir développer ça massivement à l'échelle industrielle. On est au stade de l'expérimentation pré-industrielle, mais ça fait partie des choses que Jean Lassalle veut absolument pousser, d'autant que le potentiel français dans ce domaine-là est immense. Avec nos 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. C'est une ressource d'énergie, cette Z2. Voilà. Alors, sur le gaz de schiste, on n'en a pas parlé. Je ne me suis pas renseigné, j'aurais pu réviser. Je dirais personnellement que le problème, la question du gaz de schiste se pose de façon doublement différente de ce qu'il en est aux États-Unis et au Canada, qu'on soit d'accord ou pas avec l'exploitation du gaz de schiste, dans ces pays-là. Je dirais c'est le problème de leurs citoyens, puisqu'il n'y a pas d'effet, comment dire, écologique global. Il y a un effet écologique global par le CO2, mais c'est le même que sur les autres combustibles. Donc l'effet écologique, il est local. C'est aux communautés locales, on va dire, le lieu pouvant être assez grand d'en juger. Voilà. En France, on n'a pas les immensités de paysages ou de pinèdes, je ne sais pas, qu'il y a dans ces pays-là. Nos paysages, nos territoires sont relativement, enfin, sont précieux, je dis relativement, au sens où ils peuvent être diversement précieux d'un endroit à l'autre, mais en général, ils sont précieux au cœur de ceux qui ont choisi d'y vivre. Je voudrais très bien quelle serait la partie du territoire national qu'on livrerait à la fracturation hydraulique, par exemple. Il y a une piste qui avait été soulevée par Monsieur Beffa, Jean-Louis Beffa, qui recommandait, justement pour éviter la spéculation sur le gaz de schiste sur les territoires, de recenser la ressource et pour éviter que les spéculateurs puissent les repérer de leur côté et les revendre avec un profit en attendant pour le jour où on autoriserait le gaz de schiste. Bon, c'est une piste intéressante, mais c'est un peu compliqué puisque aller dans ce sens-là donnerait un signal qu'on veut aller vers l'exploitation du gaz de schiste, alors qu'en principe c'est plutôt une mesure de défense contre cette évolution-là. Donc bon, j'ai pas de position arrêtée là-dessus.
Au niveau de la gouvernance, certains parlent de centralisation, d'autres de décentralisation ou de relocalisation. Selon Jean Lassalle, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place par rapport à la politique énergétique en France au niveau de cette gouvernance ?
Il y a peut-être deux aspects. Au niveau de la production, lui, s'est beaucoup heurté aux réglementations environnementales. On parle justement des énergies renouvelables, le petit hydraulique, le solaire, etc. On a un aspect un petit peu problématique en France, qui est qu'il y a une réglementation très étatique sur la possibilité d'installer des énergies comme ça, alors même que, un peu comme je l'ai dit, du gaz de schiste, mais à une échelle cette fois-ci encore plus petite, la communauté locale qui entretient un espace, un territoire, une vallée, normalement est particulièrement bien placée pour savoir si c'est pertinent ou pas de mettre des panneaux photovoltaïques à tel endroit. Et donc il s'est beaucoup heurté, lui, en tant que, dans différentes fonctions locales, enfin, en tant que maire, mais plutôt en tant que président d'intercommunalité, d'institution, etc., aux obstacles liés à la volonté de protéger la nature, ce qui est bien joli, mais qui doit en décider ? Est-ce que ça doit être l'État qui dit « non, vous ne pouvez pas mettre un panneau photovoltaïque ici » Ça semble un peu absurde. Donc voilà, pour cet aspect énergie renouvelable, il serait pour aller plus vers une responsabilité locale, en tout cas à l'échelle du territoire directement concerné. Hein. Alors on peut se poser la question pour les éoliennes, puisqu'elles se voient de loin. Alors est-ce que ça va être la commune toute seule qui décide, ou est-ce qu'il faudra... Voilà. En tout cas, l'idée générale, c'est que la responsabilité doit être portée par les gens qui vivront les conséquences des décisions. Alors maintenant, pour cette raison-là, il y a aujourd'hui une logique de centralisation dans le domaine du transport, par exemple, d'électricité à haute tension, puisqu'on fait une plaque avec la Belgique, au sud des Pays-Bas, si mon souvenir est bon. Mais au fond, c'est la même logique. À partir du moment où, si on a un blackout chez l'un, il est aussi chez l'autre, il vaut mieux avoir une même gouvernance, un même centre de contrôle, etc. Voilà. Donc il n'y a sûrement pas, dans le domaine des énergies, une réponse unique à la question du niveau de décision. Disons, notre logique générale serait plutôt éviter que le niveau de décision soit placé inutilement haut, et essayer de le redescendre aux gens qui vont porter les conséquences de la décision.
Plus largement, au niveau de la recherche scientifique, à propos de la thématique de l'énergie, sur quoi faudrait-il mettre l'accent ?
Bon, c'est sur les énergies que je viens d'évoquer, ou dont je viens de parler, au choix. Hein, en premier lieu, le solaire, le stockage, évidemment, qui va avec, stockage local ou d'autres formes. Donc les différentes formes d'énergie marine, parce qu'il y en a, toute une gamme. Donc là, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de besoins de recherche. Beaucoup, alors là je le vis moi en tant que je travaille dans une start-up qui est dans le domaine de l'énergie, mais pas de la production d'énergie, plutôt de l'analyse des données de capteurs sur l'énergie. Et donc on reçoit nous plein de CV de gens qui travaillent dans ces domaines, qui voudraient passer de domaines d'industrie énergétique lourde à des domaines soit plus renouvelables, soit plus éco, soit plus responsabilisants pour le citoyen. Donc il y a un potentiel de compétences dans la recherche prête à s'investir là-dessus. Il suffit de donner le signal et de définir ces programmes. Je peut-être un peu optimiste, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Au niveau de la population, est-ce que Jean Lassalle pense qu'il faudrait mettre en place des mesures d'incitation, de sensibilisation, même d'éducation, de pédagogie par rapport aux citoyens, toujours dans cette thématique de l'énergie?
Alors, c'est justement le point sur lequel moi je dois dire attention, conflit d'intérêts, mettez-le dans le papier, puisque je travaille dans une boîte qui travaille dans ce domaine-là. Mmh. Alors, si je dis oui, c'est bien de le développer, je vais monter les... Enfin, il n'y a pas d'action. c'est une start-up. Vous pouvez citer, en tout cas j'assume, les conclusions de l'ADEME sur ce sujet-là, qui dit qu'il y a un problème dans le fait de déployer des solutions comme Linky, Gaspar, etc., qui sont coûteuses, qui sont critiquées pour plein de raisons, mais qui en tout cas sont coûteuses, sans proposer par ailleurs une solution d'information un peu intelligente des gens, enfin un peu riche ou ergonomique, ou, enfin en tout cas utilisable, sur la consommation des gens. Voilà, si on dépense ce prix-là d'envoyer des installateurs chez les gens juste pour qu'ils puissent consulter une courbe sur un écran, pour le peu d'expérience que j'en ai, puisque c'est mon métier, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il y a un choix à faire, soit de ne pas aller vers l'information du citoyen et de se contenter de lui répéter des trucs généraux du style les ampoules à halogène, ton consomme 30%, etc. etc. Soit d'aller vers une information plus fine, ce qui veut dire aussi aller dans le domaine de big data ou de choses comme ça, mais avec un impact potentiel. Alors ça a été documenté, hein, je vous parle là aussi en tant que professionnel plus qu'en tant que politique, mais il y a des potentiels d'économie d'énergie sur certaines applications comme les piscines ou les chaudières à gaz qui ont été bien documentés et qui ont un effet macro, qui représentent des centrales nucléaires entières. Donc c'est pas négligeable de se poser ces questions-là. C'est pas seulement une question de la sensibilisation ou le repérage de potentiel d'économie d'énergie. C'est pas juste un truc pour faire joli. Ça veut dire des centrales nucléaires derrière. Oui.